Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour notre podcast mensuel Super Physique. Je serai encore une fois accompagné de Fabrice, cofondateur du site, et de Street, notre super gérant de la boutique Super Physique. Donc on va attaquer tout de suite.
Bonjour à tous.
Salut à tous.
On va reprendre aujourd'hui un article sur le site, à savoir faut-il prendre ses mensurations et quelles mensurations peut-on atteindre de manière naturelle. Fabrice, je te laisse commencer.
Voilà, donc c'est un des premiers articles qui a été publié sur le site. Donc l'intitulé exact, c'est musculation, mensuration, l'idéal sans dopage. Et donc c'est un article qui a été très consulté parce que quand on lit les magazines de musculation et notamment les interviews des professionnels, souvent ils annoncent des mensurations qui sont énormes et on ne sait pas toujours si elles sont fantaisistes. Alors déjà, on ne peut pas comparer à eux parce que ils ont une génétique hors norme, ils sont dopés, etc. C'est des professionnels. Et par exemple, Arnold Schwarzenegger, il annonçait 55 cm de tour de bras. Et donc du coup, quand on est un athlète naturel, non professionnel, eh bien, on peut se poser la question de quelles sont des mensurations raisonnables et qui peuvent nous servir d'objectif. Et donc, j'avais réalisé cet article en m'appuyant sur diverses formules, donc la formule de John McCollum, la formule de Stuart McRobert et la formule de Cazebut. Donc comment ces gens-là, ils ont fait pour trouver ces formules-là? Souvent, ils se sont basés sur les mensurations des Mister America des années 40. Parce qu'à l'époque, quand un Mister America gagnait, on lui prenait ses mensurations. Et à l'époque, ils n'étaient pas trop dopés, voire peut-être même pas du tout, avec un peu de chance. Et donc du coup, ça donnait un petit peu une grille de ce que pouvait être un athlète culturiste de haut niveau, non dopé, en termes de mensurations. Et donc j'ai repris les formules et je les ai mis dans cet article. Et par exemple, pour un athlète pour quelqu'un qui mesurerait 1m80, qui aurait un tour de poignet de 18 cm et un tour de cheville de 24 cm, la formule de Cazebut donne comme objectif un tour de cou de 42 cm, 122 cm de poitrine, 82 cm de tour de taille, 43 cm de bras, 64 de cuisses, 43 de mollets, et grosso modo un poids à 90 kg en étant bien sec. Donc pas sec comme en compétition, mais abdos très apparents. Donc voilà un petit peu leur grandeur. Et donc les questions qu'on peut se poser en revoyant cet article plusieurs années après. Donc c'est déjà, est-ce qu'il est pertinent de prendre ses mensurations? Est-ce qu'on peut se baser sur ce type de formule? Notamment, est-ce que le tour de poignet est discriminant? Est-ce que la taille est discriminante? Est-ce que le tour de cheville est discriminante? Et puis après, discuter également des chiffres qui étaient donnés. Par exemple, est-ce que le 43 cm de tour de bras là, qui est sorti par la formule, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est réservé aux pratiquants qui sont très acharnés, entre guillemets? Donc voilà les questions que je souhaite revoir avec vous.
Je vais prendre la parole pour continuer le sujet. Donc effectivement, là je vais commencer par le plus simple. Pour moi, ces mensurations sont pertinentes d'un point de vue d'un objectif lorsqu'on est un pratiquant naturel. Quand on fait 43 de bras pour 1m80, c'est qu'on commence vraiment à avoir de très gros bras. Dans le précédent podcast, on donnait l'exemple de quand on fait 130 au coucher, en moyenne, on fait autour de 40 de tours de bras. Bah là, quand tu fais 43 de tours de bras, ça commence à causer, ça commence à être énorme. Alors après, sur la question, est-il pertinent de prendre ses mensurations? Non, de prendre ses mensurations. Je dirais que lorsque l'on débute, on est assez motivé de voir qu'on évolue assez rapidement en mensuration. Je me souviens, à mes débuts, j'étais tout content de passer les 30 cm de tours de bras, puis après les 40, etc. Et malheureusement, plus on progresse, plus on se rapproche de ces limites, entre guillemets, du moment complètement génétique, et moins ça monte, et dans ce cas là ça peut plutôt déprimer de voir que je me souviens d'ailleurs à ce sujet que lorsque j'avais 19 ans, je m'étais aperçu que je prenais environ 1 cm de bras par an, rythme qui a dû bien ralentir depuis puisqu'à 19 ans je me souviens que je faisais 42 et que 3 ans avant je faisais 39, à 16 ans je faisais 39, donc j'avais pris 1 cm de bras par an. Et donc je voyais que le rythme s'alentissait, et depuis, j'ai pas repris mes mensurations, parce que je me suis dit, ça va me déprimer de voir que, ça se trouve, je prends même pas 5 mm par an, et c'est pratiquement même sûr que je les prends pas. Donc je me suis dit que j'allais arrêter de les prendre. Mais lorsque l'on débute, je me souviens, j'avais un petit tableau, et je notais mes mensurations chaque mois, mais ça montait assez bien, donc on voyait que je progressais, puis on pouvait suivre le tour de taille, voir si on prenait du gras, etc. Enfin, concernant le fait que le tour de poignet ou la grosseur des os de manière générale influence la mensuration, effectivement, plus on a de gros os à la base et plus ça fait une grosse mensuration. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on est plus musclé, ça veut seulement dire qu'on a plus d'os. En un sens, si vous faites par exemple du tour de cheville, j'ai souvent pris parce que je suis hyper fine, je fais 21 cm de tour de cheville, si vous voulez comparer, forcément, si vous faites 23 cm, et bien tout de suite ça fait 2 cm de plus, en exagérant, de tour de mollet. Donc on voit que ça a quand même une influence sur la circonférence, mais pas forcément sur la grosseur du muscle, qui, elle, est déterminée par rapport à d'autres facteurs qui sont, comme par exemple, la longueur du muscle, qui est pour moi le principal facteur et dont on parle notamment dans l'article génétique et musculation en deux parties sur Superphysique. Street, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avec tes petits bras ?
Globalement, le tour de cheville, il influence surtout les mensurations des cuisses si tu modifies le tour de cheville, mais pas les bras, donc ça reste plus ou moins réaliste, non ?
Vas-y, Fabrice.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'était Cazebut, donc celui qui a fait une des formules qui est sur le site. Il a utilisé des équations mathématiques pour voir quels étaient les discriminants. Puis voilà, en fait, ce qu'il a vu, c'est qu'effectivement, le tour de cuisse et puis le tour de mollet étaient corrélés au tour de cheville. Et de la même façon, le tour de bras était corrélé au poignet. Mais bon, comme l'a dit Rudy, bah, c'est logique, plus il y a d'os, plus du coup la circonférence est élevée. Donc ça reste parfaitement logique. Et toi, donc, t'as combien de bras, Loïc? Ton bras qui fait rêver, Loïc, combien tu as?
Bah, globalement, si je mets
28, 29,
ma taille, je tombe dans... Ouais, à chaud, précise. Je fais globalement ce qui est noté dans la colonne de Cazebut par... Je fais pas 129 de poitrine, mais au niveau des bras, ça se tient. Au niveau des cuisses, ça se tient plus ou moins. À pas quelques centimètres près, là, au niveau des cuisses, il met 67, tu es à peu près à 60. Mais ouais, ça me semble réaliste. Simplement, je fais pas 99 kilos.
Ouais, le poids est peut-être un peu élevé, par contre, ouais, pour la formule de Cazebut. Parce que là, 1m80, 91 kilos, à 8 à 10% de matière grasse,
ouais, ça c'est énorme.
Ça me paraît trop. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Rudy?
Ouais, bah, là, forcément, que tu dis 1m80, 91 kg à 8-10%, pour moi c'est vraiment quelqu'un de doué. Ouais, on peut dire après c'est le maximum. C'est vrai qu'en moyenne sur Superphysique, ouais, on voit bien que quand on est à peu près sec, si on fait une moyenne, et bien les individus font à peu près taille poids, voire taille plus 5, donc 1m80, entre 80 et 85 kg à peu près sec. Sachant que 8-10%, comme tu l'as dit, c'est quand même les abdos bien visibles qui creusent, etc. C'est pas juste les voir. Donc quand on fait déjà taille plus 5, c'est déjà quand même quelque chose de pas mal, surtout si on est sec. Mmh.
Voilà, parce qu'il faut voir à la salle, des fois on voit des types qui ont des bras qui paraissent assez gros, mais il faut mettre ça en perspective par rapport au taux de masse grasse, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en général qui sont ne serait-ce qu'à 10-12%, donc déjà avec des abdos plutôt bien apparents, c'est pas toujours le cas en salle. Hein. Parce qu'avoir 42 de bras et un tour de taille à 90, ça a rien d'extraordinaire du tout, hein, faut bien le dire.
C'est vrai que c'était l'exemple à l'époque, je crois que tu donnais sur le site, Fabrice, c'était l'exemple des 90 cm de tour de taille et des 80 cm. Je sais pas si c'était pas dans un de tes articles où tu disais, bah, mieux vaut avoir 40 à 80 cm que 42 à 90.
Voilà.
Je crois que c'est un exemple, mais c'est vrai, de toute façon. Et puis souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens sont en débardeur, etc., pour parler un peu là-dessus. On peut avoir les bras secs et puis avoir un peu de bide. Donc là, on parle encore une fois d'un taux de masse grasse de manière générale. Et donc, effectivement, bah, dans ce cas-là, lorsqu'on est vraiment bien sec, à 8-10%, eh bien, on n'a pas les mêmes mensurations que quand on a 5 ou 10 kilos de plus.
Et sur les mensurations des professionnels, Rudy, est-ce que tu as un avis? Alors, parce que Schwarzenegger, on l'annonçait à 55 de bras, voire même il y a des articles qui disent 58, mais là, on sait que c'est fantaisiste. Est-ce que tu crois qu'un pro peut atteindre les 55 de bras en période de compétition?
Ouais, j'en ai vu des, quand j'avais fait le tour des salons aux US. Je crois que le plus gros que j'ai vu, c'était l'Arnold. C'était un black, j'ai oublié son nom, c'est Stubbs, Joel Stubbs, qui est à peu près aussi grand que moi. Et franchement, il était énorme. Mais vraiment, donc je pense que ouais, il était vraiment entre 55 et 60, sans trop en douter, quoi. Après, sur Arnold, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il faisait pas assez 58, comme quoi Arthur Jones l'avait mesuré à autour de 50, etc. Après, on saura jamais la vérité, mais c'est sûr que certains pros, surtout ceux qui sont bien grands, ont vraiment des bras monstrueux. Hein. Après, pour les plus petits, bah, je pense que c'est un peu en rapport avec la formule. Hein. Si tu fais 1m75, ça m'étonnerait que le mec fasse 60 cm de tour de bras ou même 55. Hein. C'est assez monstrueux. Hein. On voit bien, par exemple, je vois si tu fais à peu près 1m70 en naturel et que tu fais 40 de tour de bras, ça te fait un bras déjà énorme. Et si tu fais 42 sur 1m70, bah là c'est encore plus qu'énorme. Puis là, si t'arrives à 44, bah là, c'est presque une cuisse quoi, visuellement, vu la proportion. Donc, ouais, après, plus t'es grand, je pense que les mecs ils s'y rapprochent. Joel Stubbs était énorme, Sean Allen aussi était vraiment très gros. Mais après, quand je voyais style Jay Cutler, etc., je voyais bien que ça me paraissait beaucoup leur 55 cm. J'y croyais déjà beaucoup.
Tu vois qui c'est Rudy?
Qui?
City Fletcher, qui fait un peu parler de lui en ce moment sur YouTube.
Ouais, mais je vois qui c'est, mais à chaque fois on m'en parle, et pour moi, il est gras et dopé.
Au bas de l'article, il y avait quelques captures d'écran justement avec des tours de bras, soit des membres du forum que j'avais moi-même mesuré. Donc notamment, on a le 46 cm de tour de bras de Michael Gundil. Et puis, il y avait une capture d'écran d'un amateur aux USA où on voit le maître de couture qui est sur son bras. Donc on voit ce que ça donne, un 48 cm déjà en photo. C'est très impressionnant. Et puis, il y avait pareil, Eddie Robinson, donc un pro des années 90-2000. Qui est mesuré à 52 cm et déjà il a un bras monstrueux quoi.
Ouais, c'était déjà pratiquement son point fort au mec, il était hyper doué pour les bras, je me souviens.
Donc voilà. Donc faut imaginer que déjà nous, si on atteint les 44, c'est déjà très impressionnant visuellement, alors faut imaginer un pro qui fait plus de 50, c'est monstrueux.
10 cm de plus.
Eh ouais.
Ouais.
Ok.
Et surtout de voir que ça bouge plus après, une fois qu'on a atteint cette mensuration. Comme a dit Rudy, c'est difficile après.
C'est difficile de continuer à rester motivé, à voir que tes mensurations évoluent presque pas.
Arriver à 45, 46.
Donc forcément après, tu prends moins tes mensurations.
Ok. Bon, on passe aux questions, Rudy.
Voilà. Alors nous avons sélectionné des questions des internautes, donc on les prend dans l'ordre. Par rapport au topic sur les questions des podcasts sur le forum Superphysique, vous pouvez poser vos questions avec plaisir. Donc la question d'entraînement du mois est: jusqu'à quel âge peut-on progresser? C'est une question qui est assez intéressante parce que j'ai écrit un article qui sortira à la rentrée, justement la musculation pour les plus de 40 ans, etc., et savoir quelle était la marge de progression et surtout si l'on pouvait progresser passé un certain âge. Donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est déjà: quand est-ce que vous allez commencer la musculation? Si on débute la musculation, peu importe l'âge où on démarre, si c'est vraiment un vrai début, eh bien forcément vous allez progresser. Ça va être mieux que si vous ne faisiez rien. A l'inverse, si ça fait déjà 20 ans que vous faites de la musculation, forcément, progresser, ça va être beaucoup plus dur et il y a des chances que vous luttiez justement pour ne pas régresser passé les 40 ans. Ensuite, ce qui compte aussi, c'est votre expérience dans le sport. En dehors de la musculation, si vous avez été un grand sportif, forcément, vous avez plus de potentiel que quelqu'un qui fait de la musculation et qui débute à 40 ans et plus. Ce qu'on peut dire également aussi, c'est que de toute façon, plus on avance dans un âge, plus on vieillit malheureusement, et moins on peut progresser. Mais, dans tous les cas, vraiment, si vous débutez la musculation, si vous vous posez la question de savoir si ça vaut le coup de démarrer la musculation, si vous allez devenir meilleur, plus fort, plus musclé, plus sec, etc., la réponse est oui, quel que soit votre âge. Après, forcément, quand on est un peu âgé, un peu vieux, eh bien, on a moins de marge de progression, moins de potentiel de progression, on récupère moins vite, on doit adapter son entraînement, en faire moins, mieux récupérer, etc. Je donne souvent l'exemple des écarts alimentaires, parce que souvent, on se rend assez bien compte de ça, c'est que quand tu as 18 ans et que tu fais un écart, eh bien, le lendemain, tu es tout neuf. C'est comme si tu n'avais rien fait, etc. Et puis plus tu vieillis, plus tu te rends compte que lorsque tu fais un écart, eh ben, tu vas le payer sur plusieurs jours. C'est comme aussi avec l'alcool, on peut dire. Tu prends une cuite à 18 ans, tu la sens pas passer le lendemain. Tu prends une cuite à 30 ans, le lendemain c'est pas la même limonade. Là pour l'entraînement, plus tu vieillis, Et plus ça se rapproche un peu de ça, c'est que chaque entraînement va te faire moins bien récupérer qu'avant, et donc tu vas devoir adapter ton entraînement en faisant moins. Mais encore une fois, dans tous les cas, quel que soit ton âge, surtout si tu débutes, tu vas progresser. Donc n'hésite pas à t'entraîner et à commencer la musculation.
Voilà, et ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, il y avait au powerlifting, souvent, même après 40 ans, il y a des types qui peuvent être assez forts en fait. Gagner de la force, ça met un certain temps à arriver à maturité.
Oui, bah, effectivement, comme dès qu'il y a
autant, par exemple, dans d'autres sports.
Dès qu'il y a des facteurs techniques en jeu, donc là, comme le powerlifting, forcément, comme tu peux toujours progresser techniquement, toujours améliorer quelque chose, tu peux progresser. Parce que c'est pas qu'une question de prise de muscle, de progression sur toi-même. C'est là, en powerlifting, en force, une progression. Par exemple, au squat, tu peux dire, voilà, j'ai gagné de la souplesse ici, j'ai gagné de la stabilité là, j'ai renforcé un petit muscle ici, qui fait que maintenant, je suis un peu meilleur. Alors que si ton objectif n'est que la prise de muscle, ben là, forcément, les facteurs techniques rentrent beaucoup moins en jeu. Et à part le fait de progresser, d'essayer de progresser à chaque séance, etc., bah, tu peux pas jouer sur d'autres facteurs.
D'ailleurs, ça doit être un des seuls sports où les podiums, enfin, j'ai pas d'âge en tête, mais je sais pas, au foot, à 30 ans, tout le monde est, tout le monde pense à sa retraite. C'est loin d'être le cas dans le milieu du bodybuilding où, ou à 30 ans, tu peux encore démarrer une carrière.
Bah ouais, c'est vrai que même en body, là, on n'en a pas parlé, mais en body, comme les mecs, il faut du temps pour pouvoir augmenter les doses de produits, puis tester les nouveaux produits, bah c'est vrai que finalement, pareil, ils sont assez vieux. Mais en powerlifting, c'est, j'ai des exemples plus parlants, parce que là, en France, je suis un peu ce qui se passe, et on voit que c'est des mecs qui sont là depuis 10, 15 ans, qui sont en haut du podium encore, parce qu'effectivement, avec tous les facteurs techniques, eh bien, les mecs perdent pas de la force comme ça, quoi. Ils ont pas de... Ils perdent pas comme ça, quoi. Alors qu'en muscle, on voit que, encore une fois, naturellement, bah, c'est beaucoup plus dur. Là, tu prends l'exemple des bodybuilders pros qui sont bien dopés, forcément. Si à mesure que ton taux d'hormones anabolisantes diminue de manière naturelle, tu compenses, et même plus par les produits, bah, ça va tout de suite mieux.
Voilà. Pour faire une note un peu plus positive, faudrait dire qu'on a quand même de la chance avec la musculation, vu que si on ne se blesse pas en s'entraînant n'importe comment, le fait qu'on ait une flexibilité dans les exercices qu'on peut réaliser fait que finalement on peut faire de la musculation pendant relativement longtemps, de manière confortable, alors que par exemple dans d'autres sports, je sais pas, genre le tennis ou le judo, celui qui pratique de manière intensive, ben après, une fois qu'il a mal quelque part et puis qu'il s'est bousillé, ben, il peut plus du tout pratiquer parce que on peut pas changer un geste de tennis, quoi. Un coup droit, c'est un coup droit, un revers, c'est un revers. Alors qu'en musculation, ben voilà, si t'as développé couché, barre te fait mal, et ben tu fais du développé incliné avec halter, et puis du coup, t'as une longévité qui peut être allongée du fait d'une flexibilité au niveau des exercices. Sinon, il y a aussi un athlète qui est assez connu sur Internet, enfin peut-être moins maintenant des jeunes, mais c'est quelqu'un qui s'appelle Clarence Bass, et donc qui avait créé son site dans les années 2000. Et il a des photos de lui, donc depuis l'âge de 20 ans jusqu'à maintenant l'âge de 75 ans. Alors je pense qu'il est naturel. Alors bon, certes, à 75 ans, il fait moins rêver que quand il en avait 20, mais il conserve une condition physique tout à fait honorable, donc comme quoi c'est possible.
Un ancien athlète pro ?
Il avait été Mister Olympia, Mister America dans les années 40, enfin à l'âge de 40 ans, et il est né en 1937. Donc voilà, on peut aller sur son site, ça s'appelle sebas.com, et puis on voit son évolution, donc pas d'excuses. Alors du coup, on peut passer à la deuxième question.
Voilà, donc la question, c'est un jeune débutant sur le forum qui fait de la musculation depuis 8 mois et qui se demande la pertinence de peser ses aliments pour progresser. Donc la question en fait, c'est jusqu'à quel niveau en gros s'investir et surtout quand s'investir à fond pour progresser. Donc moi, je suis assez d'avis de peser dès le début ce qu'on mange pour avoir des repères. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet qui s'appelait « Faut-il peser ses aliments pour progresser ?» Et je vais redire un peu ce que j'avais dit, à savoir qu'il est vraiment très important, comme sur l'entraînement, d'avoir des repères pour pouvoir s'appuyer dessus pour modifier, donc là sur le sujet, son alimentation si celle-ci n'allait pas dans le bon sens. On prend un exemple. Aujourd'hui, tu manges au hasard, ton poids, ça fait des mois qu'il ne monte pas alors que tu cherches à grossir. Bah, tu ne vas pas savoir, tu vas dire je vais manger un peu plus, mais tu ne vas pas savoir si tu manges vraiment plus. En fonction de ta faim, en fonction de s'il fait chaud ou pas, on va y revenir tout à l'heure, bah, ça va changer les choses. Donc c'est pourquoi si demain tu pèses tes aliments, imaginons que tu prends 80 grammes de féculents le midi, 80 grammes le soir, 150 grammes de viande, etc., bah, ce que tu veux par rapport à toi, et bien là, si tu stagnes au niveau du poids alors que tu veux grossir, ou l'inverse, tu stagnes en sèche alors que tu veux perdre du poids, perdre du gras, etc., et bien là tu as des repères sur quoi t'appuyer. Tu sais que tu manges 80 grammes, donc tu dis bah voilà, je grossis pas, je vais passer à 120 grammes de féculents, ou je maigris pas, je vais retirer des glucides, etc. Donc si le but est de devenir un meilleur soi, mais vraiment un meilleur soi, le meilleur soi qu'on peut devenir, je conseille de peser ses aliments dès qu'on le peut. Ce sera un plus pour progresser et devenir meilleur. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, souvent, on me dit oui, mais je suis pas professionnel, je gagne rien à faire ça, etc. J'irai encore une fois, tout dépend des objectifs de chacun. Mais si votre but est de progresser le plus rapidement possible, de perdre le moins de temps, de grappiller tous les résultats de vos efforts, eh bien, pesez vos aliments et ne vous contentez pas du hasard.
Voilà, et sans nécessairement peser tous les jours, au moins le faire peut-être un petit peu au début et compter les calories pour avoir une idée de ce que représente l'alimentation quotidienne en termes de calories. Parce que des fois, quand on est jeune, on a l'impression par exemple de manger beaucoup, mais quand on compte les calories que nous avons mangées, ben, des fois ça fait pas autant qu'on le pensait en fait.
Mmh. C'est vrai qu'on
demandait aussi les équivalences. Tu veux répondre à ça ou je peux y répondre?
Vas-y si tu veux.
Il demandait alors par exemple par rapport à du riz, il n'était pas certain de la bonne méthode de calcul. En fait, il suffit de taper sur Google par exemple le riz ou pâte et de prendre la valeur nutritionnelle de l'ingrédient en question. On retombe facilement sur le nombre de glucides. Donc par exemple les pâtes, c'est environ 70 grammes. Riz et pâtes, c'est globalement la même chose. Après, pour du pain, je sais de tête que c'est 1,5 fois plus que la quantité de riz ou de pâtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par exemple, je sais pas, des petits pois. Là, les pommes de terre. Pommes de terre, c'est 4 fois plus. Patates douces, pareil, globalement. Après, moi, je suis pas à 10 grammes près de glucides, donc je pousse pas mes calculs plus loin que ça, et je pense pas que ce soit nécessaire. Je sais pas ce que t'en penses, Rudy, à ce niveau-là.
Ouais, bah de toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que t'as bien donné les équivalences, mais c'est que en général, tous les féculents et les céréales se valent à peu près. Donc que tu manges des pâtes, du riz, du blé, du quinoa, de la semoule, etc., en général, ça peut s'intervertir sans trop se prendre la tête. Hein. Comme tu dis, on n'est pas à 10 grammes près de glucides. Surtout qu'en général, bah, c'est compensé par soit un peu plus de protéines. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, si certains ont des doutes sur les équivalences, etc., bah, il suffit effectivement de taper sur Google, regarder les valeurs nutritionnelles, ou même de regarder au supermarché, on compare les deux paquets, et on voit ce que ça contient, et si on peut remplacer, surtout à quelle quantité. Encore une fois, c'est juste une question de calcul, et d'où l'intérêt, encore une fois, de peser ce qu'on mange pour bien se rendre compte de ce qu'on fait.
Voilà.
Ok, alors maintenant, les conseils du podcast du jour. Rudy, ton conseil du jour.
Alors voilà, moi je suis, comme chaque année, je suis assez surpris des excuses qui me parviennent via les réseaux, via les messages, etc. Et là, on est en plein dedans, et on est au mois de juin, et a priori, c'est la canicule. A priori, il fait très chaud. Et donc, beaucoup me disent, j'ai du mal à manger, il fait chaud, j'arrive plus à suivre la diète, pour s'entraîner, c'est l'horreur, j'y arrive pas, etc., blablabla. Donc, on va dire les choses clairement. Se chercher des excuses, ou dire parce qu'il fait chaud qu'on a du mal, parce qu'on a entendu que ça allait être plus dur, etc., de s'entraîner, parce que ceci, parce que cela, tout ça, il faut l'oublier. faut bien avoir conscience que il est important de savoir ce qu'on veut et de se battre pour, d'où le fight for it de Superphysique. Qu'il fasse chaud, froid, qu'il fasse le temps que vous voulez, que vous ayez n'importe quelle excuse, dans tous les cas, celle-ci, malheureusement, ne sert pas à grand chose, parce que ce qui compte, c'est ce que vous allez faire, ce que vous faites. Alors, comme je dis souvent, l'important, c'est de faire du mieux que vous pouvez, malgré les difficultés. Donc, il fait chaud, bah, il fait chaud pour tout le monde, pareil, je transpire un peu plus, j'ai du mal à dormir, etc. Mais cela ne va pas m'empêcher d'aller à la salle, de faire la séance. Voilà, de faire la séance que j'ai prévue, et ça passe ou ça passe pas, mais en tout cas, j'ai pas en tête de me dire il fait chaud, ça va être plus dur, je vais faire moins que prévu pour me préserver, etc. Si vous avez un objectif à remplir, concentrez-vous dessus, et peu importe les obstacles, entre guillemets, hein, parce que là c'est la chaleur, mais j'appelle pas ça un obstacle, mais certains s'en errent. Peu importe, concentrez-vous sur ce que vous devez faire, ce que vous pouvez contrôler, et non pas sur ce quoi vous n'avez aucun pouvoir, sur ce que vous ne pouvez rien faire. Donc arrêtez de vous chercher des excuses et allez vous entraîner et suivez votre diète.
Pour ceux qui ont lu la biographie de Arnold Schwarzenegger, il raconte que, donc je crois quand il avait 18 ans et puis qu'il était dans l'armée autrichienne, donc il était chef de char et il emmenait alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qu'il dit dans sa biographie. Il emmenait ses poids et ses haltères à l'intérieur du char jusque dans ses missions pour pouvoir s'entraîner et pas louper d'entraînement.
Ouais, c'est ça, il faut s'adapter. C'est comme le manque d'appétit, finalement. On peut le... Alors oui, c'est plus difficile de manger de grosses quantités quand il fait chaud, mais à ce moment-là, rien ne l'empêche de gonfler plutôt les collations et de diminuer un peu les repas ou de répercuter ce qu'on n'a pas réussi à manger pendant les repas de midi, soit avant le matin à 10h, soit à 16h en collation. Et puis, comme ça, on perd rien.
D'ailleurs, Street, j'ai une question à ce sujet. Je sais que tu as beaucoup d'excuses quand tu es en déplacement pour ne pas manger. As-tu résolu ces problèmes?
Ouais. Non. Non, mon cher Rudy. C'est pour ça.
On n'a pas entendu ce que tu as dit, Loïc.
Je disais, c'est pour ça que le gainer est une solution miracle à ce moment-là, et qui peut faciliter la tâche.
Je saurais m'en souvenir quand tu reviens, Street.
Et bien justement, puisque c'est à moi de donner mon conseil, donc je vais le changer pour être en phase avec ce qui avait été dit précédemment. C'est que, à propos des gainers, donc, pendant longtemps, moi, j'ai pas pris de gainer parce que, voilà, je me disais un gainer, c'est juste de la poudre avec des protéines et puis du sucre, c'est... un peu aberrant de prendre ça alors que je peux l'obtenir avec un steak haché et puis des pâtes. Mais finalement, il s'avère que c'est bien difficile d'avoir ça quand on a un métabolisme rapide, ou spécialement quand on est jeune adolescent, c'est vraiment difficile d'avoir la totalité des calories nécessaires pour progresser en musculation et puis prendre du poids. Et donc l'usage d'un gainer peut être utile. Ça évite d'avoir mal au ventre en se gavant de pâtes et de riz, et puis c'est pratique quand on est soit en déplacement, soit à l'université. Des fois, on va pas sortir ses pâtes ou son sandwich à 4 heures de l'après-midi entre deux cours, et un gainer, ça peut être pratique. Et je sais par exemple que le frère de Rudy, à un moment donné, lui prenait du gainer, n'est-ce pas, Rudy?
C'est vrai, j'en avais parlé dans l'article. Que peut-on espérer en 3 ans de musculation, je crois, sur le site. Et effectivement, lui, il avait du mal à manger. Je me souviens, il arrivait du mal à dépasser les 100 grammes de féculents pesés avant cuisson aux principaux repas. Et donc, on s'est dit, on va le mettre au gainer et ça avait bien fonctionné. Donc, c'est comme un peu les protéines. Si vous avez du mal à manger, si vous êtes souvent en déplacement, que vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de vous faire des gamelles, etc. Si vous savez maintenant, car vous devez savoir maintenant comment choisir votre gainer, notamment avec ma vidéo tout sur les gainers où je vous explique quels sont les ingrédients à rechercher dans vos gainers pour éviter de prendre de la merde, eh bien, effectivement, ça peut être utile, même plus qu'utile. Question de masse.
Sinon, il y a toujours la solution d'être le temps d'avoine en poudre, avec mélanger avec de la whey dans un surcooker, ça peut faire un refus de gainer et aussi préparer en 2 minutes.
Le problème, après, quand tu prends beaucoup d'avoine, si vraiment tu dois vraiment prendre beaucoup de gainer, c'est que si tu arrives à, je sais pas, à 200-300 grammes d'avoine par jour, il y a un moment, tu vas sentir que ça fait beaucoup de fibres. Et tu vas sentir que ça va pas trop. J'ai dit ça parce que j'ai fait tester à l'époque, quand Yann était nous cet hiver, qui était en prise de masse, le sarrasin. Et donc moi, j'en mangeais assez régulièrement, 400 grammes par jour. Et lui, quand on mangeait jamais, je lui en avais fait. Donc 200 grammes, et ben il s'en souvient encore, il en veut plus. Donc tout ça pour dire, voilà, trop de fibres aussi, c'est pas forcément bon.
Ouais, c'est une question d'habitude, je pense.
Ok, alors toi, Loïc, ton conseil du jour.
Moi, du coup, ça n'a rien à voir, mais je suis assez surpris de vous voir que beaucoup de pratiquants, surtout des personnes qui démarrent, oublient complètement de côté les bandes de poignets. Alors souvent, en plus, on ne s'échauffe pas les poignets, et on ne s'échauffe pas du tout d'ailleurs, donc ce qui est déjà un point négatif. Et en plus, beaucoup n'utilisent pas de bandes de poignets. Alors c'est pourtant pas très contraignant et ça peut éviter bien de... C'est pas pareil ?
Oui.
Ça peut éviter bien les problèmes par la suite. Et souvent on dit que ça ne nous arrivera pas à nous, et pourtant, du fait que les curls ne servent pas à avoir des effets sur les tendons et sur les poignets, et je suis passé par là aussi. Donc au bout de 6 mois de curls acharnés, pour le coup, ça fait un mouvement un peu n'importe comment, on se retrouve à avoir tellement mal dans les avant-bras et dans les poignets qu'on n'est plus capable de soulever un halter. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment de rappeler que ça ne mange pas de pain d'enfiler des bandes de poignets, surtout que c'est pas ce qui est rien de plus cher. Donc je pense à les avoir sur soi et les mettre surtout les exercices de curl, de développer coucher, etc. Et bien les serrer, parce que si c'est pour les avoir pour l'esthétique, là aussi, ça n'a aucun intérêt.
Alors, juste pour rappeler ce que c'est, donc de la même façon qu'on peut mettre une ceinture de musculation, une ceinture de force autour des abdominaux, donc pour faciliter le gainage du dos et éviter de se faire mal au dos si on n'est pas habitué à se gainer. En gros, là, les bandes de poignet, ça va soutenir le poignet dans les exercices où celui-ci il est mis en tension. Toi, tu recommandes ça, Rudy, même pour les débutants qui travaillent léger, ou tu prends ça juste pour les pratiquants comme Loïc qui fait 140 et quelques au coucher et puis 25 au curl halter?
Bah, je recommande l'utilisation des bandes de poignet à partir du moment où tu n'arrives plus à garder ton poignet droit et dans l'axe du mouvement. Si au développé couché, tout va bien, ton poignet est toujours droit. J'ai connu des mecs comme ça en plus qui avaient les poignets toujours droits, qui s'assaient pas sous la barre. Bah, eux, forcément, les bandes de poignet ont moins d'utilité que si toi tu fais ton développé couché et que tout de suite ton poignet il casse sous la barre. S'il casse, bah, forcément, à mesure que tu vas progresser, tu vas te faire mal. C'est qu'une question de temps. Donc, je suis plus en fonction de est-ce que mon poignet casse ou pas. S'il commence à casser, mieux vaut faire de la prévention en mettant des bandes de poignet, comme dit Loïc. Ça coûte une quinzaine d'euros et ça peut vous sauver la vie.
Ok, super. Bon, on a fait le tour. Vous voulez ajouter quelque chose pour les vacances?
Eh bien, pour les vacances, je vous rappelle qu'un excellent article est disponible sur Superphysique qui s'appelle « Musculation et vacances » ou qu'on remettra en avant très prochainement et qui récapitule ce que vous devez faire en vacances pour perdre le moins possible en fonction de la durée de vos vacances, parce qu'effectivement, si ça ne dure qu'une semaine, en général, ça peut bien se passer si vous gérez bien. Et si ça dure plus, eh bien, il y a des petites choses à faire pour que ça aille mieux et qu'il y ait moins de pertes. Donc, article musculation et vacances sur Superphysique.
Ok, très bien. Bon, eh ben, au mois prochain ou au mois de septembre, nous verrons.
Salut à tous. Salut, et à n'hésitez tous. Pas à poser vos questions sur le forum. Salut.
Ciao.